France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Lundi de cette semaine à Lille-Longue, dans la rade de Brest, le président Emmanuel Macron a appelé à une coopération militaire européenne autour de la dissuasion nucléaire française. Alors que l'invasion russe de l'Ukraine se poursuit, que les bombes israéliennes et américaines pleuvent sur l'Iran et ses infrastructures militaires, ses laboratoires de recherche nucléaire également, Emmanuel Macron a prédit que les décennies à venir seront celles d'un âge nucléaire. Pour preuve, il a notamment annoncé la construction d'un nouveau sous-marin nucléaire, l'Invincible, pour 2036, ainsi que l'augmentation de têtes nucléaires en France. Alors, quels peuvent être les contours de cette dissuasion avancée, théorisée lundi? Le développement des puissances nucléaires marque-t-il la fin des tentatives de contrôle de ces armements? Et plus largement, quel résultat peut-on espérer de la dissuasion nucléaire? Un invité ce soir pour nous éclairer, Benjamin Haute-Couverture, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique et senior philo Canadian Global Affairs Institute. C'est très chic, à Ottawa. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir.
Le demi-siècle qui vient sera un âge d'armes nucléaires. La France, déterminée, libre, confiante, y tiendra tout son rôle. Elle continuera de se fortifier et pour son propre bénéfice, elle arrimera ce cap sur l'Atlantique au socle européen. Tel est mon message aujourd'hui. Soyons puissants, soyons unis, soyons libres. Vive la République, vive la France.
La voix du président de la République, Emmanuel Macron, lundi à Lille-Longue, dans la rade de Brest. Et avant, Benjamin Haute-Couverture, avant de dérouler le tapis à la dissuasion nucléaire, je voudrais tout de même que l'on interroge cette nécessité que bien peu tout de même interroge désormais dans l'actualité. A-t-on fondamentalement besoin de nucléaire? A-t-on véritablement besoin de jouer ce jeu-là aujourd'hui?
Ah ben c'est une sacrée... vous mettez la barre très haut.
Je me suis permis de commencer fort.
Absolument. Hein. Après le discours dans cet écho de cathédrale qu'on vient d'entendre.
Écho.
vous avez raison. C'est pour ça que Freud était un génie sans doute. Alors revenons à nos moutons.
Sur la nécessité donc ou non de participer à l'augmentation de notre arsenal nucléaire.
Alors d'abord. Il n'était pas question, on ne s'y attendait pas, hein, évidemment, de remettre en cause, un tant soit peu, la vertu de la dissuasion, ni la place de la dissuasion dans le dispositif de défense français. C'est la clé de voûte de la défense du pays. C'est la clé de voûte de la défense d'autres États dotés de l'arme nucléaire. En France, c'est le cas, depuis fort longtemps. Et pour replacer un petit peu le discours dans son contexte, rappelons à nos auditeurs que... À chaque mandat, le président prononce un discours sur la place de la dissuasion nucléaire dans l'économie de sécurité et dans l'outil de défense français. Donc là, la dernière fois, le président l'avait fait à l'école de guerre, c'était en février 2020. On s'attendait donc à un discours pour son deuxième quinquennat. Il a choisi cette fois de le prononcer dans le sein des saints de la dissuasion qui est la base de Lille-Longue.
Le symbole géographique du nucléaire français.
Absolument, en tout cas des forces océaniques stratégiques, c'est-à-dire vraiment l'une des deux jambes, disons, de notre force de dissuasion, la force océanique, Lille-Longue, d'où partent nos sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, et du reste, on se souvient que lundi, il a prononcé son discours devant un SNLE qui était à l'eau.
Un SNLE, c'est un sous-marin.
Un sous-marin nucléaire, lanceur d'engins. On s'attendait, quand je dis « on », c'est la communauté stratégique, disons. On s'attendait, en France et probablement à l'étranger de manière un petit peu moins précise, à un discours renouvelé. Un discours peut-être un petit peu différent des discours orthodoxes auxquels on est plus ou moins habitué, je dirais, tous les cinq ans. Le président Hollande avait prononcé le sien, le président Sarkozy avait prononcé le sien à son époque. Pourquoi ? Parce que Il ne vous a pas échappé, il n'a échappé à personne que les conditions stratégiques sur le continent sont devenues, se sont exacerbées, sont devenues plus risquées, plus dangereuses, et que la garantie de sécurité américaine, dans la perception de pas mal d'Européens, semble s'être fragilisée. Et donc on s'attendait à ce qu'il y ait une espèce de mise à jour doctrinale par le président de la République, de la place de la dissuasion dans l'outil de défense, puisque c'est la vocation de ce discours de faire une mise à jour tous les 5 ans.
Et c'est pas ce que vous avez trouvé alors ?
Si, c'est ce que j'ai trouvé. Le président, lui, a annoncé qu'il y avait une évolution significative, je crois que c'était ces termes, ou une modification significative, quelque chose comme ça. Je pense effectivement que dans ce discours, pour bien connaître tous les discours qui sont prononcés tous les 5 ans depuis longtemps, on peut dire que le discours de Lillong a marqué une évolution, effectivement, une inflexion assez importante de la doctrine, une adaptation. Et c'est cette adaptation a pris deux formes, sur lesquelles on reviendra certainement un peu plus dans le détail. C'est d'une part la précision de la place que l'on accorde à l'outil de défense conventionnel dans le schéma de dissuasion d'ensemble, et d'autre part, la place que l'on accorde à la dimension européenne de notre dissuasion.
On va revenir évidemment sur ces deux piliers que vous dessinez là. Un mot d'abord tout de même sur le diagnostic posé par le président de la République. A-t-il raison de dire qu'une parenthèse de l'histoire s'est refermée et que nous entrons là dans un nouvel âge d'armes nucléaires ?
Alors, si je me souviens bien, je me trompe peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'il ait parlé de nouvelles.
Ah, je le cite là.
Bien. Donc, il a parlé de nouvel âge nucléaire. Écoutez, en ce qui me concerne, moi, je pense que c'est une formulation qui est un peu malheureuse. Parce que l'âge nucléaire dans lequel nous sommes, qui date de maintenant de 1945, suit à l'évidence subit un certain nombre d'inflexions depuis pas mal d'années, je dirais une bonne dizaine d'années à peu près, mais que l'idée selon laquelle nous entrerions dans un nouvel âge nucléaire aujourd'hui ne correspond pas véritablement à la réalité. Pourquoi ? Parce que toutes les évolutions que l'on voit à l'œuvre ont à peu près une bonne vingtaine d'années, voire une quinzaine d'années. Elles sont aujourd'hui peut-être plus mûres qu'elles ne l'étaient dans le passé. Mais enfin, il s'agit d'inflexions, de réalités qui ne datent pas d'il y a quelques années, qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais qui prennent forme longtemps, longuement, dans une évolution plutôt lente des choses.
Mais sur la première partie du diagnostic, sur cette parenthèse qui se referme, c'est vrai peut-être aussi que dans l'imaginaire national, dans l'imaginaire même que l'on partage communément, on se dit que l'âge nucléaire était peut-être révolu, qu'il appartenait du moins à la guerre froide. On réalise que cette parenthèse doit être fermée, qu'elle est véritablement fermée ?
Oui, mais alors à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on est assez lent à la détente quand même.
Je parle évidemment de l'homme de la rue, si je puis dire, en tout cas.
Mais ça fait au moins une bonne dizaine d'années que ça dure, cette histoire-là. Depuis à peu près 10 ans, nous disons que l'arme nucléaire retrouve une espèce de centralité dans les relations de puissance entre États. Ce qui, peut-être, était un petit peu moins vrai entre 1991-92 et le début des années 2010. Mais cette époque-là est terminée. Elle est terminée depuis longtemps. Elle s'est terminée probablement dans le courant des années 2000-2010, plutôt 2010-2020. Quand exactement ? C'est aux historiens de le dire dans longtemps. On ne le sait pas exactement, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Et on peut penser, d'ailleurs, qu'on aurait pu dire exactement la même chose en 2020, lorsque le discours de l'école de guerre a été prononcé. On aurait probablement pu le dire un petit peu plus tôt.
Alors parlons justement du deuxième pilier. On va commencer par le deuxième que vous avez mentionné, Benjamin Hautecouverture, l'européanisation de cette démarche. Plus exactement, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, le Suède, le Danemark, 8 pays donc ont accepté, a dit le président Emmanuel Macron, de participer à cette dissuasion avancée proposée par la France. Ça m'a marqué cette expression, pour commencer, ont accepté. Moi, ce que j'imaginais a priori, sans avoir travaillé le sujet, c'était que tout le monde en Europe souhaitait partager notre nucléaire. En fait, non, c'est plutôt l'inverse. Il a fallu que ces pays acceptent. Alors expliquez-nous.
Oui, vous avez raison de dire ça, parce que le nucléaire de défense en Europe continue d'être une ligne de fracture entre États. Donc, il n'y a pas de consensus. Il y a des États qui ont ratifié le traité d'interdiction complète des essais, tels que l'Irlande, l'Autriche, Malte. Il y a des États qui ne veulent pas entendre parler d'un rôle plus important de la France en matière de dissuasion nucléaire. Ça peut être les pays du Sud, tels que l'Italie, l'Espagne, éventuellement d'autres. Et puis, il y a des États qui, étrangement, vous me direz, sont proches du flanc est du continent, qui, eux, estiment que ce pourrait être utile de bénéficier de manière un petit peu plus tangible de la protection nucléaire française, le cas échéant. Et ce sont naturellement la Pologne, les États baltes, les États scandinaves, vous avez cité la Suède,
l'Allemagne. Qui sentent la menace russe, évidemment.
Qui, d'un côté, sentent la menace russe, et de l'autre, sentent que les États-Unis pourraient se dérober et que la garantie nucléaire américaine pourrait se fragiliser à l'avenir. Il serait trop tôt aujourd'hui pour dire que cette garantie nucléaire est fragilisée. Mais enfin, la dissuasion, comme vous le savez, n'existe que dans le regard de l'adversaire. Et si on s'en tient au discours de Trump et de son entourage depuis 2 ans, on peut avoir l'impression, effectivement, que cette garantie donne des signes de fragilité. Donc ces États deviennent en effet demandeurs d'une offre française qui, elle, date davantage, qui a plusieurs années, et qui, jusqu'à présent, avait moins intéressé. On se rappelle qu'il y avait eu une invitation un petit peu à la cantonade faite par le président lors de son discours de l'école de guerre de février 2020, qui n'avait pas donné grand-chose parce que, à l'époque, on ne voulait pas vraiment entendre parler d'un rôle plus important de la dissuasion nucléaire française en Europe, et en particulier chez les Polonais. Et puis, est arrivé ce qui est arrivé, hein, février 2022, puis le deuxième mandat Trump, etc. Et les Polonais, en particulier, ont commencé à avoir l'oreille, à tendre l'oreille et à devenir plus intéressés par ce que la France pouvait proposer. Mais justement, que proposait-elle? C'est ça le truc. C'est que pendant longtemps, la France a dit que sa dissuasion nucléaire avait une dimension européenne, je dirais presque de facto. Ça veut dire que les intérêts vitaux de la France sont de plus en plus mêlés historiquement avec ceux de ses partenaires et de ses voisins.
Il n'était pas circonscrit donc au territoire national, évidemment.
Était, disons, de moins en moins circonscrit au territoire national, de moins en moins circonscrit aux intérêts vitaux centraux, hein, alors que génériquement, la dissuasion nucléaire française est centrale, n'est pas élargie comme la dissuasion américaine, mais sans vraiment savoir exactement qu'est-ce que ça voulait dire sur le plan opérationnel. Et donc, la nouveauté de ce discours de Lillong, ça a été de commencer à donner une forme un peu tangible à cette dimension européenne.
En creux, ça pose donc une autre question. Où nos intérêts vitaux s'arrêtent-ils du point de vue géographique? C'est presque vertigineux comme questionnement.
Mais vous avez bien raison, Quentin. C'est vertigineux. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Parce que la seule réponse qui peut être donnée est celle du président au moment où il le décide.
À sa discrétion uniquement.
C'est à sa discrétion. Il n'y a pas de définition des intérêts vitaux. On en connaît le cœur, c'est le territoire national, les frontières, c'est la population, ça peut être des infrastructures critiques, on peut avoir le sentiment que là, on est vraiment dans l'intérêt vital. On peut penser effectivement que les voisins immédiats font partie des intérêts vitaux. D'ailleurs, je crois que le général de Gaulle déjà en parlait pour le Benelux et l'Allemagne, la RFA à l'époque. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui, après Lillong, les discours de Lillong, des États qui sont beaucoup plus lointains, les États baltes, la Pologne et d'autres, on ne le sait pas encore tout à fait, mais on peut penser que, oui, cette fois, les intérêts vitaux des Européens sont aussi les intérêts vitaux français.
Le président russe Vladimir Poutine en 2022.
Les représentants des pays de l'OTAN parlent de la possibilité d'utiliser, contre la Russie, des armes de destruction nucléaire. Ceux qui se permettent de telles déclarations vis-à-vis de la Russie, je leur rappelle que notre pays dispose également de différentes armes, certaines plus récentes que celles de l'OTAN. En cas de menace pour l'intégrité territoriale de notre pays et pour défendre le peuple russe, nous utiliserons, sans aucun doute, tous les moyens dont nous disposons. Ce n'est pas du bluff.
Je reprends, Benjamin Haute-Couverture, votre expression, hein, la dissuasion n'existe que dans les yeux de l'adversaire. Est-ce que Vladimir Poutine a regardé le discours de Lilongue d'Emmanuel Macron? Si je pose la question de manière un peu plus diplomatique, au fond, est-ce que cela a un impact, ce type de discours, sur l'adversaire?
Mais c'est la question que je me pose moi aussi, figurez-vous, je me la pose depuis longtemps. On a coutume de dire en France, sans savoir exactement d'ailleurs si on a raison, mais on a coutume de dire que la dissuasion nucléaire française complique le calcul de l'adversaire. En l'occurrence, qu'elle compliquerait le calcul d'une superpuissance nucléaire comme la Russie. C'est probablement le cas, mais on ne sait pas à quel point. Et aujourd'hui, on continue de le dire et de le penser. Mais encore une fois, on ne peut pas être à la place du pouvoir russe. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est montrer de manière déclaratoire et puis de manière opératoire, opérationnelle ou budgétaire, stratégique, que notre dissuasion est crédible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un discours extrêmement déterminé, et je trouve à ce titre que le discours de Lilongue était extrêmement déterminé. Le ton était vraiment très déterminé. Et d'autre part, des moyens crédibles. Et ça, je me réfère aux lois de programmation militaire qui mettent en œuvre la modernisation de nos forces depuis maintenant assez d'années et qui vont encore courir jusqu'à aux années 2030-2040. Et donc ça donne crédit à notre outil de dissuasion. Maintenant, l'européanisation de nos forces qui consisterait éventuellement en cas de crise à disséminer des appareils, des forces aériennes stratégiques dans d'autres pays pourrait naturellement, sur le plan opérationnel, compliquer le calcul de l'adversaire russe. Oui,
alors,
en effet.
En quelques mots, Benjamin Haute-Couverture, comment cela va-t-il s'organiser, l'européanisation de nos forces nucléaires? Quel est l'échange, le contrat que la France va passer avec ces 8 pays?
Bah écoutez, on ne le sait pas encore, puisque ça va quand même dépendre de ces 8 pays, c'est-à-dire ça va dépendre exactement de ce qu'ils acceptent de faire, précisément les uns et les autres.
La France restera souveraine tout de même.
La France restera de toute façon souveraine. La question de savoir si les pays européens participeront au financement de notre dissuasion ne se pose pas. La question de savoir si le partage de la décision nucléaire prendra un jour forme ne se pose pas, comme elle ne se pose dans aucun pays doté de l'arme nucléaire. En revanche, il va y avoir de plus en plus de partage de savoir, de connaissances, de culture, d'approche opérationnelle avec les pays partenaires que vous avez cités. Il va y avoir probablement la participation de ces pays à des exercices nucléaires français, il peut y avoir une participation des forces conventionnelles de ces pays à nos exercices nucléaires, et ces pays pourraient, en cas de crise, recevoir des appareils de nos forces aériennes stratégiques. Donc on peut effectivement se rendre compte que là, je dirais pour la première fois, la dimension européenne prend une forme qui dépasse la stricte coopération que nous avions avec les Britanniques, et éventuellement, sur le plan, disons, plus politique, avec l'Allemagne.
Cela sert-il à quelque chose? Honnêtement, Benjamin Haute-Couverture, l'OTAN, ça existe. Ce n'est pas parce que les États-Unis fragilisent en ce moment l'Alliance qu'ils sont prêts à s'en retirer entièrement, qu'ils sont prêts également à retirer le parapluie nucléaire américain de l'Europe occidentale, non?
Ah oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je pense que de ce point de vue-là, le catastrophisme ambiant qui consiste à dire que les États-Unis se désengagent d'Europe ne correspond absolument pas à une réalité stratégique, et en particulier sur le plan nucléaire. Par conséquent, l'alliance nucléaire dans le cadre de l'OTAN est quelque chose d'extrêmement solide, et l'offre française vient compléter un dispositif existant.
C'est un complément.
C'est un complément.
Je voudrais vous faire entendre une archive de 1967, lorsque le redoutable premier sous-marin nucléaire français entre dans les mers.
130 mètres de long, 10 de large, 9000 tonnes, il emportera 16 fusées atomiques qu'il lancera en plongée. Tel est le redoutable, le premier sous-marin atomique français qui pourra rester 3 mois sans refaire surface. À Cadarache, le réacteur du redoutable a déjà fait sur place 7 fois le tour du monde. Il vient d'être rechargé avec de l'uranium enrichi français pour une nouvelle croisière immobile en attendant d'être installé en 1968 dans la coque. Le général de Gaulle a tenu à présider lui-même le baptême du redoutable à Cherbourg. En appuyant sur la commande de mise à l'eau, le chef de l'État donnait l'essor à la troisième génération de la force atomique française qui comprend déjà les Mirage 4 et bientôt les fusées nucléaires qui seront basées en Haute-Provence. Et pendant que les ouvriers de l'arsenal admiraient leur dernier-né, d'autres, à Brest, commençaient la construction de sa future base opérationnelle.
Ce qu'a précisé également Emmanuel Macron, Benjamin Haute-Couverture, c'est la construction d'un nouveau sous-marin nucléaire, l'Invincible, prévu pour 2036. Est-ce que cette démarche-là fait également partie de la crédibilisation que vous mentionniez plus tôt de notre registre, de notre architecture nucléaire ?
Oui, tout à fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La force de la dissuasion, éventuellement, dans les yeux d'un adversaire tel que Vladimir Poutine, c'est la crédibilité de notre outil. Et la crédibilité de notre outil, elle passe par sa mise à niveau, sa modernisation, le cas échéant. Et en particulier, la construction de la troisième génération de SNLE qu'a évoqué le président de la République à Lille-Longue. Mais c'est aussi les forces aériennes stratégiques. C'est aussi le nouveau missile à SN4G qui va occuper nos rafales à partir des années 2035-2035. 2036, et qui sera hautement supersonique, encore plus furtif, qui pourra aller dans la profondeur, etc. etc. Donc, tout le dispositif des forces océaniques stratégiques, des forces aériennes stratégiques, sont en cours de modernisation. Il n'a échappé à personne que le budget de dissuasion a doublé depuis quelques années, qui va continuer d'être très important jusqu'au probablement aux années 2030, et que cela correspond à une modernisation en cours pour être à la hauteur des défis et des menaces sur qui pourraient peser sur nos intérêts vitaux dans une dizaine d'années, une quinzaine d'années.
Je voudrais qu'on élargisse le champ de cette conversation, Benjamin Haute-Couverture, et penser peut-être plus largement le contexte international qui évolue à grande vitesse dans ce domaine précis du nucléaire. Le dernier texte qui encadrait les arsenaux nucléaires de la Russie et des États-Unis, le traité New START, a expiré en février dernier. Est-ce que cela signifie que possiblement, la nouvelle ère dont nous parlions un peu plus tôt dans notre discussion, c'est peut-être une relance progressive de la course aux armements.
On pourrait gloser longtemps sur ce qu'est une course aux armements. Moi, je suis assez prudent sur l'utilisation de ce syntagme. On pourrait dire que ça n'a jamais véritablement arrêté. En ce qui concerne la fin de New START le 5 février dernier, qui effectivement était la fin d'un processus qui avait commencé en 1972. Donc oui, c'est la fin d'une histoire d'armes de contrôle bilatéral stratégique entre la Russie et les États-Unis, une assez belle histoire qui s'est terminée, mais qui ne s'est pas terminée réellement le 5 février dernier. En fait, elle s'est terminée probablement par étapes. Elle s'est terminée avec la sortie du traité sur les défenses antimissiles balistiques par les États-Unis en 2002. Elle a été ponctuée par un traité SORT en 2002 qui était assez modeste, puis le traité New START qui n'était pas censé devenir le pilier de l'architecture bilatérale stratégique, mais qu'il est devenu, je dirais, à son corps défendant. Et puis finalement, un Vladimir Poutine qui décide de sortir du système d'inspection et de vérification du traité en 2023. Par conséquent, ce que l'on enterre le 5 février 2026, c'est une coquille qui est devenue quasiment vide. Donc il n'y a plus grand-chose. Le président de la République a dit que c'était un champ de ruines. L'arms contrôle bilatéral stratégique et l'ensemble de l'arms contrôle était devenu un champ de ruines. Je suis parfaitement d'accord avec cette idée, je la défends depuis longtemps, malheureusement. J'essaie d'alerter là-dessus. C'est un champ de ruines. Il n'y a plus de cadre, il n'y a plus d'architecture de sécurité. Or, cette architecture de sécurité qui avait été pensée au tournant des années 50 à Washington, c'était pour asseoir la dissuasion nucléaire. Par conséquent, la dissuasion nucléaire n'est plus assise sur ce pilier de l'arms contrôle et il n'y a plus d'encadrement. Donc oui, dans ce vide-là, on peut imaginer effectivement que ce que les États vont produire puis déployer comme nouveau système, en particulier un système exotique russe qui vont arriver malheureusement peut-être un jour en phase de production, ne seront pas du tout encadrés.
En novembre dernier, le 2 novembre dernier plus exactement, Donald Trump a évoqué l'idée de relancer les essais nucléaires. Là aussi, on peut gloser longtemps effectivement sur ce qu'est une course aux armements, mais est-ce que ce n'est pas un signe supplémentaire de ce pessimisme ambiant qui prend forme tout de même ?
Pas tout à fait, parce qu'on ne sait toujours pas exactement de quoi parlait le président. Il est possible que la reprise des essais nucléaires dont il parlait ait été des essais sous-critiques qui ne sont pas...
Qu'est-ce que des essais sous-critiques?
Qui ne dégagent pas de l'énergie. Et qui ne sont
une
pas
balle à blanc, interdits. Une balle à blanc,
c'est... Ce sont des essais qui sont presque pas détectables et qui ne sont pas interdits par le traité d'interdiction complète des essais, qui lui-même d'ailleurs n'est pas entré en vigueur. Enfin bref, disons que c'est à peu près le cadre dans lequel on est. Et il n'est pas tout à fait sûr que les États-Unis veuillent reprendre des essais critiques, avec vraiment dégagement d'énergie, suite à ces annonces. Vous rappelez que le directeur à l'époque de la NNSA, du département de l'énergie, avait rappelé que les États-Unis n'avaient pas besoin, techniquement, opérationnellement, de procéder à des essais nucléaires. Par conséquent, soyons un petit peu prudents. Pour l'instant, rien n'est avéré. Il y a un moratoire sur les essais qui dure depuis longtemps dans toutes les puissances. Et a priori, il n'y a pas de nécessité technique de mener d'autres essais. La simulation fonctionne. Et en tout cas, c'est vrai à l'évidence pour la France.
Merci beaucoup, Benjamin, haute couverture, d'être venu faire l'exégèse de la lettre présidentielle. Je rappelle que vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Bertie Bourdon, Bruno Barada, Rodi Eken, à la réalisation, Léa Racine.